Seigneur soit béni. Bienvenue à tous et à toutes dans la grâce de Dieu, dans sa présence, de son amour, pour chacun le transmettre, le partager les uns avec les autres et puis aussi à ceux qui ne le connaissent pas, évidemment. Pour ce matin, je vais vous inviter à ouvrir avec moi l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens. Notre thématique, c'est, vous le savez, une Église. Selon le cœur de Dieu, nous voulons être l'Église que Jésus veut, qu'il désire, l'Église telle qu'il l'a toujours pensée, conçue. Et nous avons beaucoup d'instructions dans la parole. Allez à l'Église. La parole, il nous montre que l'Église soit toujours, on ne s'est pas vu pendant deux dimanches, que sur les deux derniers messages, nous avions commencé à considérer, un peu partout dans le Nouveau Testament, mais surtout dans les enseignements de Paul, ce terme dans l'original, allelon, les uns les autres, qui, selon vos traductions, peut être traduit effectivement par les uns les autres, réciproquement, mutuellement. Ce terme évoque la question de nos relations, et même plus que ça, c'est la question de nos devoirs réciproques les uns envers les autres. Puisque l'Église est composée de brebis, puisque c'est un troupeau nécessairement, qui dit brebis dit relation. Puisque l'Église est une armée avec des soldats, nécessairement on parle de relation, puisqu'on parle de personne. Puisqu'on parle d'un membre, de corps, on parle de membres. Et les membres, forcément, on va parler de relation, etc., etc. Et on retrouve si souvent cette expression réciproquement les uns les autres, etc., dans différents contextes, parce que c'est comme ça que le Seigneur nous montre en réalité à différents niveaux, à différents degrés, ce qu'il attend de nous pour que l'Église reste toujours l'Église au sens où Jésus, lui, l'a toujours conçu, l'a toujours voulu. Il faut que l'Église reste l'expression de son être. Elle doit rester l'expression de sa mentalité. L'Église doit être l'expression de l'état d'esprit de Jésus, non seulement pour ce monde, mais déjà aussi les uns avec les autres. Et c'est comme ça que l'Église, que les membres, chaque membre, peut être profondément béni et être aussi en bénédiction. Amen. Béni et en bénédiction. Dans les deux derniers messages, je ne peux rien résumer, ce serait trop long. Tout est sur le site internet. On a vu la signification du Saint-Baiser, on a vu la signification du lavage des pieds, on a vu au travers de cela qu'en réalité, ce n'était pas des gestes pour des gestes, mais qu'il y avait des réalités spirituelles profondes derrière cela que nous devons appliquer à nos cœurs et à nos vies. Si nous avons bien compris le sens de ces messages, nous avons un fondement, un bon fondement, une bonne base pour ensuite aller plus loin, ce qui nous amène à 1 Corinthiens 12. Une fois que l'on a bien compris la signification, la valeur de ce baiser, l'accueil, l'ouverture de cœur, etc., une fois qu'on a bien compris la question de notre état d'esprit face aux uns et aux autres dans l'Église, on va arriver à cela ce matin. Je veux vous parler de 1 Corinthiens 12 et j'ai mis comme titre « Inquiétez-vous les uns des autres ». 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Jusque-là, on est tous d'accord. C'est là ensuite que l'apôtre Paul va approfondir le propos et que son message va concerner deux catégories de personnes. La première catégorie, elle est là. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main », donc je ne suis pas du corps. Mais ne serait-il pas du corps pour cela? Implicitement, bien sûr que oui. Et si l'oreille disait, ah mais que vu que moi je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, mais ne serait-elle pas du corps pour cela? Implicitement, la réponse est bien sûr que si. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et on pourrait multiplier comme ça à l'infini les analogies. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et là, dans le même message, l'apôtre Paul s'adresse à une autre catégorie de personnes qu'on va développer. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, je vais vous expliquer ça, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Juste, vous avez certainement, selon vos versions comme moi, ainsi nos membres les moins honnêtes, je fais la parenthèse tout de suite, c'est pas terrible hein, comme traduction, vous avez honnête ou certains, vous avez décent. Dans l'original grec, c'est askelon. Et en réalité, l'apôtre Paul, il est en train de parler du corps physique dans l'analogie. Il est en train de dire des membres qui sont disgracieux. Il ne s'agit pas de l'honnêteté en sens « ça va, vous n'avez pas trafiqué votre feuille d'impôt, vous êtes honnête ». Ce n'est pas de cette honnêteté-là. La traduction n'est pas terrible. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire ça pour nous, le mot « honnête ». C'est réellement askelon, c'est « il y a des membres qui ne sont pas très beaux voilà, dans le corps ». C'est un peu disgracieux. Donc ceux-là, on va les entourer d'un plus grand honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus beaux, ben, nous n'en avons pas forcément besoin. Dieu, non, ils n'ont pas besoin de plus d'honneur. Verset 24, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, et je vais vous développer ça aussi. Verset 26, donc si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, alors tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, amen. Dans ce magnifique exposé, plein d'analogies, ce magnifique exposé de Paul sur la diversité dans l'unité, Paul veut ici réellement faire comprendre, il veut amener les Corinthiens à avoir le regard de Dieu sur les membres qu'ils sont et sur les membres que constituent les autres. Il veut faire comprendre, accepter aussi surtout la valeur de chaque membre aux yeux les uns des autres. Il est urgent dans cette église de Corinthe qui n'a pas des décennies de fonctionnement, il est pourtant déjà urgent de réparer, de reconstruire l'unité d'un corps qui est déjà sérieusement disloqué. Corinthe, c'est l'église c'est l'église du désordre dans beaucoup de domaines, notamment d'un sérieux désordre relationnel. Et l'apôtre Paul a parfaitement conscience des enjeux, des risques. Le Seigneur Jésus dit bien lui-même, toute maison divisée contre elle-même ne pourra jamais subsister. L'apôtre Paul est en train d'insister, il leur remonte la valeur de chaque membre aux yeux les uns des autres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, parce que toute forme de division, c'est évidemment la mort de l'Église assurée. Et bien plus que d'avoir ce soin les uns des autres, parce que comment définir le soin les uns des autres? Au final, il y a plusieurs façons de prendre soin, etc. Bon, il ne le décrit pas plus. Ce qu'il faut comprendre ici, quand il dit que les membres aient soin les uns des autres, littéralement, il emploie ce merimnao qu'on retrouve très souvent, qui signifie littéralement s'occuper d'eux, mais au sens de l'inquiétude, pas destructrice, hein, bien sûr, une bonne inquiétude, de s'inquiéter d'eux. C'est le seul cas, en vérité, quand vous regardez la parole de Dieu, où le Seigneur m'autorise à m'inquiéter pour quelqu'un ou quelque chose. Le Seigneur dit, dans les Béatitudes, dans l'Évangile de Matthieu, « Pourquoi vous inquiétez pour le corps ? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de votre corps, de ce que vous mangerez, de vos vêtements. Ne vous inquiétez pas. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Et le Seigneur dit systématiquement, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Toute sa parole nous dit, d'une façon ou d'une autre, Ancien Nouveau Testament, ne vous inquiétez pas. Je suis Dieu, je vous aime, je vous ai pris en charge. Je m'appelle Yahvé, j'irai, jamais je vous abandonnerai. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Toutes vos inquiétudes, même familiales, professionnelles, etc., pour n'importe quel sujet, vu la grandeur du Dieu qui a tout prévu d'avance, vos inquiétudes deviennent naturellement illégitime. Ensuite, l'apôtre Paul va être clair, Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, etc., etc. Lorsque Marthe est là et qu'elle s'agite pour des tas de choses qui n'en valent pas la peine, le Seigneur dit, Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes, merimnao. À chaque fois, c'est merimnao, pour beaucoup de choses, mais des choses qui n'en valent même pas la peine. Parce que je les gère, je les contrôle tellement mieux que toi. Arrête, calme-toi, remets-moi tout, laisse-moi gérer, laisse-moi être Dieu dans ta vie. Et le seul cas où le Seigneur me dit, hey, il serait peut-être temps que tu t'inquiètes un petit peu, ben je vous le donne en mille, c'est pour mes frères et sœurs dans la foi, pour les membres du corps de Christ. C'est la seule fois où Dieu m'autorise, ou même il me demande, il serait peut-être temps que tu t'inquiètes un peu plus de l'autre dans l'Église. C'est QFD, message terminé. C'est le seul domaine pour mes frères et sœurs dans la foi. Alors bien sûr, on est d'accord, hein, pas une inquiétude déplacée où on va commencer à se mêler de tout et de tout le monde. On a aussi de la retenue, bien sûr. Et aussi, pas une inquiétude destructrice où on est rongé par l'inquiétude. Oh là là, non, tout est dans l'équilibre avec la grâce de Dieu. Mais pas au sens destructeur, mais vous avez compris cette ouverture de cœur, cette préoccupation sincère d'être attentif à, j'insiste, n'importe quel membre du corps. Ah, bien sûr, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, hein, le Seigneur ne m'a pas demandé de porter l'Église à moi tout seul, donc on est d'accord. Mais cette disposition de cœur qui fait que je suis prêt à être attentif à n'importe quel membre du corps. Très souvent dans les églises, les uns sont attentifs aux uns, les autres sont attentifs aux autres. Mais finalement, c'est toujours les mêmes avec les mêmes qui s'occupent des mêmes pour les mêmes soucis, les mêmes conversations, les mêmes discussions au téléphone, les mêmes après-réunions. C'est toujours les mêmes avec les mêmes. Les autres sont sincères, ils ne font rien de mal, mais les autres s'occupent toujours des autres. Ils le font bien, mais ils s'occupent toujours de l'autre, et l'un s'occupe toujours de l'un. Non, c'était dans l'autre sens, frère. Ouais. Je sais, ce matin, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est enregistré, vous retrouverez tout. Hein, voilà. N'importe quel membre, pas seulement ceux qui sont comme moi, mais aussi l'autre membre. Alors, pour ce faire, l'apôtre Paul, dans ce message, en fait, il véhicule un message. Ce message s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes à laquelle il s'adresse, c'est dans les versets 15 à 20. Il va adresser un message à ceux qui sont toujours, pour des raisons illégitimes, mais d'une façon ou d'une autre, qui sont toujours en train de se dévaloriser. Des membres qui ne se sentent jamais assez bien, toujours insuffisants, toujours incapable, je ne suis pas assez bien, je ne me sens pas à la hauteur. Quand je vois l'autre qui est comme ça, quand je l'entends elle qui prie comme ça, quand je vois l'autre qui est comme ça, qui est ceci, cela, etc., qui arrive à témoigner comme ça, etc. Et en fait, c'est destructeur parce que ces membres-là se dévalorisent parce qu'ils tombent dans un système de comparaison qui est malsain, qui est alimenté, qui est excité par un ego mal placé, aussi par l'ennemi de nos âmes qui aime bien ces choses-là. Et les uns sont dans un système de comparaison malsain dans lequel ils se sentent toujours insuffisants, incapables, dévalorisés, illégitimes. À la limite, c'est presque des imposteurs. Ils sont toujours mal à l'aise parce que moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, je ne suis jamais comme ça. Au final, je suis nul. Alors, excusez-moi, on va percer l'abcès tout de suite. Oui, moi et vous, nous sommes tous, sans exception, des gros nuls. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. On est tous des gros nuls. La grâce de Dieu est beaucoup plus fine que moi, j'en ai conscience. La grâce de Dieu me dit, oui, tu n'es rien. Mais on ne va pas en discuter indéfiniment. Oui, tu n'as rien sans ma grâce. Mais on ne va pas focus indéfiniment sur ce que tu n'as pas. Oui, tu ne peux rien sans moi. Donc la grâce me dit, tu n'es rien. C'est vrai. tu n'as rien, c'est vrai. Tu ne peux rien, c'est vrai. Mais au lieu sans arrêt de considérer, confesser, flageller, se flageller indéfiniment, quand parfois les uns ne t'ont pas fait sentir aussi que, ah oui, des fois les autres, ils ont mis aussi des petits coups de fouet évangéliques. Et au lieu de considérer sans arrêt, et tu ne pourrais pas considérer ma grâce. Dans ma grâce, tu es tout. Dans ma grâce, tu as tout. Dans ma grâce, tu peux tout. Et le message de la grâce, l'apôtre Paul, il leur dit, hey, oh, arrêtez sans arrêt de vous dévaloriser et de dire que vous n'êtes pas des membres et de vous sentir illégitime sous prétexte que... Alors, sous prétexte que tu n'es pas un œil, ben, tu ne fais pas partie du corps. Ben, si. Sous prétexte que tu n'es pas, Louis ou peu importe ce qu'il a donné comme exemple, on va relire de toute façon. Alors, tu n'es pas du corps. Ben, si, tu es du corps. Vous êtes, verset 27, vous êtes les membres du corps, chacun pour sa part. Je ne suis pas plus membre que vous. Vous n'êtes pas plus membre que moi. On n'est pas plus membres les uns que les autres. Nous sommes les membres du corps, chacun pour sa part. Merci Seigneur. Donc ce système de comparaison, malheureusement, paralyse des bien-aimés, les empêche de s'épanouir, de trouver l'ensemble des ressources qui sont déjà dans la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a pourvu à tout. À la croix, il n'a pas seulement pourvu au salut, il a déjà dans sa grâce pourvu à tout ce dont j'allais avoir besoin dans ma marche chrétienne. Donc, paralysé, empêché, des chrétiens sont là, empêchés de s'épanouir, de vivre, ils n'arrivent pas à s'accepter comme Dieu les a créés. Ils n'arrivent pas à accepter que, ben oui, ils ne sont pas parfaits du jour au lendemain. On n'est pas complaisant avec nos caractères, avec nos fautes, avec nos etc. On est appelé à progresser dans tous les domaines, on est OK. Mais, ça va. Je suis en chemin. J'avance, je progresse, je suis en chemin. Tu avances, j'avance, on est tous en progrès, on est tous en chemin. Accepte-toi tel que le Seigneur t'a créé. Et au lieu de regarder sans arrêt, parce que tant que tu vas regarder ce que tu n'es pas, tu ne trouveras pas ce que tu es dans le corps. Tu ne comprendras pas que tu es Louis si tu as toujours les yeux rivés sur les yeux en te disant « Ah, je ne suis pas un œil, ah, je ne suis pas un œil, ah, ben, je ne suis pas terrible, ah, ben, qu'est-ce que je suis ?» Et ça va. Paul est clair, vous êtes le corps. Arrête de te dévaloriser, vous êtes le corps, chacun pour sa part. Vous êtes légitime, vous êtes tout autant membre que les autres. Là, il est en train de parler aux uns. Vous êtes tout autant membre que les autres. Il n'y a pas de membre supérieur, il n'y a pas de membre inférieur. Il y a de la diversité de membres, il y a des fonctions différentes. Nous avons des rythmes de croissance différents aussi. Nous avons des rythmes de compréhension des choses différents aussi. Je pense, même si aucun père sur cette terre n'est parfait, je pense avoir aimé ma fille et mon fils de la même façon, d'avoir été équitable avec eux, de leur avoir consacré le même temps, la même attention, le même soin, le même argent, la même prière, la même énergie, les mêmes conseils. Je pense avoir été sans perfection, avoir été à peu près équitable. Mais je vous garantis, au final, j'ai eu des résultats différents. Ben oui. Et chacun a avancé, grandi, compris, évolué à son rythme. Et ce n'est pas parce que mon fils, à un moment, était un petit peu moins avancé que ma fille sur certains points qu'il n'était plus membre de la famille. Et inversement. Vous pouvez sourire, hein, c'est quand même censé être une super nouvelle pour beaucoup. Hein. Donc, on relit quand même. Allez, relisez avec moi, il faut que ça rentre. Hein. Tout ça, c'est une histoire, frères et sœurs. C'est une histoire d'état d'esprit, c'est une histoire de mentalité. Ça nous paralyse. Il y a des gens, des frères et sœurs, ils sont super, pleins de bonne volonté, ils se paralysent inutilement avec des considérations qui n'en sont pas. Verset 15, si le pied dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ben Paul est en train de dire, mais si, tu es le corps quand même. Verset 16, si l'oreille dit, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, si tu es le corps quand même. Et puis il fait remarquer, si tout le corps était œil, ben ça donnerait du Picasso. Moi, ça pourrait être pratique, j'aurais des yeux derrière la tête. Non, vous avez compris. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc Paul parle ici à des membres qui ont tellement de mal à s'accepter tels qu'ils sont. Et il leur rappelle la valeur, leur valeur et leur nécessité dans le corps par la grâce de Dieu. Oui, tu n'es rien, tu n'as rien. tu ne peux rien. Mais l'autre que tu es en train d'idéaliser dans l'Église, dis-toi aussi que sans la grâce de Dieu, il n'est rien, il n'a rien, il ne peut rien. Et la grâce a déjà tout pourvu pour toi. C'est toi qui bloques, c'est toi qui empêches de. Alors je veux vraiment avoir ce message plein d'amour pour des bien-aimés. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous comparer à d'autres. Arrêtez de vous flageller. Parce que quelque part, vous ne le faites pas exprès, mais vous êtes en train de remettre en question, inconsciemment, vous êtes en train de remettre en question la sagesse infiniment variée de Dieu qui a voulu le corps ainsi. Merci Seigneur. Et si tu te focuses sur ce que tu n'es pas ou sur ce que l'autre a, ça bloque. Beaucoup de frères et sœurs ont encore terriblement besoin de comprendre qui ils sont en Christ. Qui ils sont en Christ. La valeur qu'ils ont, la valeur, mon bien-aimé, ta valeur ne vient pas de tes compétences ou de tes talents humains. Ta valeur ne vient pas de ce que tu es capable de faire ou d'accomplir. Ta valeur intrinsèquement ne vient que d'une seule réalité spirituelle. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Et ça, parce que tu es de Christ, ça constitue toute ta valeur. Le reste, c'est autre chose. Le reste, ça vient après, différemment. Amen. Besoin de comprendre qui on est en Christ. Alors du coup, j'ai beaucoup parlé, mais je ne sais plus où j'en suis. Oui, ça aussi, je voulais, on l'a relu, voilà. Je voulais aussi insister sur ce point, vous savez, un petit peu plus loin, si vous montez au chapitre 15, à un moment, l'apôtre Paul, puisque, vous savez, il va aussi s'adresser à ceux qui, à tort, ont un sentiment de supériorité. Il y en a qui ont un sentiment d'infériorité et d'autres qui ont des sentiments de supériorité. Et le comble, c'est que parfois dans nos vies, on est capable, en fonction de passer de l'un à l'autre comme ça. Beaucoup de Corinthiens avaient aussi un sentiment de supériorité. Tellement de supériorité qu'ils ont commencé à défier l'autorité de l'apôtre Paul et ils ont réellement commencé à le mépriser. Et c'est dans ce contexte où Paul est méprisé par les Corinthiens, une bonne partie des Corinthiens, pas tous, mais une bonne partie, qu'il est obligé de leur dire « Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Donc ça permet de remettre les choses en place. La grâce m'amène à un parfait équilibre. Quand quand je me sens en dessous, la grâce me dit « Non, moi je vais pourvoir à ce que tu peux être, à ce que tu peux avoir et à ce que tu peux faire. » Et le message de la grâce m'encourage, il me regonfle et il me remet à niveau. Mais à contrario, quand le petit pharisien qu'il peut y avoir à l'intérieur de mon cœur m'emmène un petit peu trop haut et commence à me faire monter sur des sphères où je commence à me croire je ne sais pas quoi, le message de la grâce me dit « N'oublie pas, c'est par ma grâce que tu es... » Je descends de 3 étages. « C'est par ma grâce que tu as... » Je redescends de 4 étages. « C'est par ma grâce que tu peux... » Je redescends de 5 étages. Et en réalité, le message de la grâce a ça d'extraordinaire. C'est qu'il va niveler tout le monde et remettre tout le monde au bon niveau, celui de Jésus. Amen. Il est super ce message, vous ne trouvez pas? Je me suis régalé toute la semaine avec ça. Vous êtes le corps. Alors, oui, bien sûr, mais, et je suis humain, vous l'êtes. On a tous notre nature charnelle, par moments, ce vieil homme qui va commencer à lutter. Parfois, on est trop en bas, puis il y a des moments, et oui, ben la chair en moi, elle commence à monter. Et l'apôtre va aussi adresser ce message dans la continuité à ceux, moi, parce que des fois, j'ai vécu les deux, honnêtement, à ceux qui, à tort, se sentent mieux que d'autres. Puis on commence à avoir un sentiment de suffisance. Alors évidemment, c'est pas explicitement avoué, c'est pas audible, c'est pas verbalisé, c'est pas exprimé, on est bien d'accord, on est trop humble pour dire qu'on est mieux que les autres. On peut pas dire ces choses-là, mais c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur, c'est une façon de considérer, c'est un état d'esprit. Ce sont des sentiments intérieurs où on peut très vite avoir un sentiment de supériorité. Et ça, c'est dangereux parce que c'est ça qui commence à faire des divisions dans le corps, parce que l'autre, on le considère non plus au niveau de la grâce, mais on commence à le regarder, vous connaissez l'expression, on commence à regarder de haut, mais qui est une fausse hauteur. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre malheureusement l'Église, c'était le cas de Corinthe. C'est comme ça qu'ils vivaient l'Église de façon clanique. Ils vivaient les uns avec les uns, les autres avec les autres. Ils vivaient l'Église de façon sélective. Donc l'apôtre Paul est en train de leur dire, dans le même message, il continue, ce sera les versets 20 et suivants, un message à ceux qui se sentent à tort mieux que d'autres. Si vous prenez aussi quelques passages avant, quelques chapitres avant, l'apôtre Paul, à un moment, leur dit « Mais que nul d'entre vous ne conçoive de l'orgueil les uns par rapport aux autres. » Parce qu'au final, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Peu importe ce que tu as, tu l'as forcément reçu. Donc, qu'est-ce qui te distingue ? Puis, si tu l'as reçu, ben, pourquoi t'en glorifies-tu ? Donc, il n'y a aucun sujet de s'élever de quoi de qu'est-ce. Et puis, là ensuite, au verset 21 qu'on a lu ensemble, non, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ah, c'est verrouillé comme... c'est imparable, hein. Ah, parce qu'avec votre tête, et si demain vous n'avez pas de pied, on va voir, je ne sais pas où vous allez aller ou comment vous allez y aller. Hein. Ouais, mais heureusement que dans l'Église, il y a des gens qui sont... ils ne sont pas des pieds, vous avez compris, mais... Wow, ils marchent, ils sont synchronisés, c'est coordonné. Ouais, il faut des têtes, il faut des cerveaux, il faut des gens qui soient un peu plus... Bah, comme ça, bah, et puis il faut des gens qui soient plus manuels, un peu comme des bêtes salelles, Exode 31. Et puis il faut aussi, par exemple, des gens qui, ouais, dans leur marche, dans la façon dont ils vont effectivement recevoir des instructions, mettre en place... Waouh ! Ouais, mais s'il y avait des pieds avec des mains, avec des compétences exceptionnelles et pas de cerveau, excusez-moi, on est des légumes. Hein. Puis s'il y a un cerveau et puis pas des mains et des pieds bien coordonnés, ça ne fonctionne pas. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de vous. La tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul, ici, il est en train de dire à des gens qui se sentent mieux, il dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que ton frère, ta sœur, sait faire, mais tu ne t'en rends même pas compte. Et tu as besoin d'eux, parce que tu ne peux pas. Personne n'est complet, personne n'a tout reçu dans un corps, dans une église, ce n'est pas possible. Et c'est là que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je vous ai dit, permet de remonter quand je me sens en bas, mais permet de me remettre à niveau quand malheureusement je me sens trop élevé par rapport à mes frères ou à mes sœurs. Donc le message, plus exactement la réalité de la grâce dans ma vie, va produire ce double effet, me remettre à niveau quand je me sens trop bas, me remettre à niveau quand je me sens trop haut. Paul insiste sur la valeur, la nécessité de chaque membre. L'œil a besoin de la main a besoin de la tête. Verset 22, même de ceux qui paraissent, et j'insiste bien, Paul a bien dit paraissent, même de ceux qui paraissent les plus faibles, verset 22, et qu'on estime les moins honorables, verset 23, c'est-à-dire ceux que l'on remarque le moins, voire ceux que l'on remarque pas du tout, auxquels on ne va pas naturellement faire attention. Et l'apôtre Paul veut attirer l'attention des Corinthiens sur ces membres, justement, qui très souvent, on n'y fait pas attention. Quand j'étais, pour un exemple de membres qui sont un peu honorables, à quoi il peut penser ? Il y a des membres qui sont plus honorables, plus visibles, plus honorables, d'autres moins. Et puis les membres qui ne sont pas trop honorables, il faut les entourer de plus d'honneur, il faut en prendre plus soin. Par exemple, bon, c'est un très mauvais exemple pour moi, mais c'est l'exemple qui m'est venu tout à l'heure. Je me suis dit, tant pis, je le dis. Quand j'étais jeune, vous doutez bien que j'ai eu des cheveux. Si, je vous montrerai les photos. Et toi, tu rigoles pas parce que j'ai vu les photos. Donc, je te montrerai les miennes. Le temps, quand j'avais 20-25 ans, ça, c'était honorable. Parce que c'est tout de suite ce qu'on voit. Mes yeux, mes cheveux, etc. Mon teint pour les sœurs, etc. J'ai passé un temps considérable pour voir si le numéro 53 était bien aligné avec le 54, etc. J'ai rien à cacher, je vous montrerai des photos. Un temps considérable sur mes cheveux, si j'avais su que je faisais tout ça pour rien. Et parallèlement à ça, donc ça c'était un membre qui visuellement était honorable et je lui ai consacré trop de temps. Et parallèlement à ça, il y avait des membres dont je n'avais pas conscience. Et oui, j'avais 25 ans, j'étais flic, je travaillais de nuit dans la banlieue, j'essayais de tenir les nuits comme je pouvais, et je buvais des litres et des litres et des litres de Coca-Cola, parce qu'il y a de la caféine pour essayer. Puis un jour, arrivé à 40 ans, mon médecin il m'a dit, « Monsieur Brion, il faut vraiment que vous arrêtiez cette alimentation-là, vous arrêtez le Coca, vous arrêtez le Nutella au petit-déj, vous me stoppez tout ça, vous avez un foie. » Et votre foie, l'usine d'épuration des déchets dans votre corps. Votre foie ne va pas bien. Si vous continuez, vous allez me faire un Nash syndrome. Je dis, de quoi il me parle ? Ah, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'étais pas bien, j'étais lourd, j'avais mal. Eh ben oui, eh ben bon, je vais vous dire honnêtement, même si j'avais des cheveux, j'en prendrais pas autant soin que... Par contre, j'ai appris. Ah ouais, le foie, on le voit pas. Mais si votre foie, il va pas bien, votre corps, il est KO. Si vous êtes mal peigné ce matin... Vous êtes quand même en bonne santé, on est d'accord ? C'est clair. Par contre, si votre foie ne va pas bien, vous n'êtes pas en bonne santé. Ce n'est pas possible. Donc, ces membres qui sont moins honorables au sens où on va moins les remarquer, l'apôtre Paul dit, ceux-là, il faut les entourer de plus d'honneur. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à mon foie. Et il y a tellement de bien-aimés dans les églises, on devrait faire tellement plus attention à eux. Pas pour les valoriser, on ne va pas se passer de la pommade, on ne va pas exciter l'orgueil, mais parce que des bien-aimés sont trop... Ils paraissent petits, ils paraissent faibles, et ils ont besoin qu'on les encourage, ils ont besoin qu'on les remette à niveau, et la grâce de Dieu doit passer par nous, on les remonte comme ça. Et on a besoin d'eux parce qu'ils sont capables de faire bien plus dans une église que ce qu'on croit à l'instant T. Mais sous nos yeux humains, on ne fait pas attention, on n'a pas vu que... Eh oui, mais si tu savais le trésor et ce qui est prêt à se manifester dans la vie de tel frère ou telle sœur, tu n'as même pas fait attention. Parce que, bien aimé, dans les églises, on se plaint toujours. Ouais, il faudrait si, il manque ça. Frères et sœurs, le Seigneur sait. Dans son église, il ne s'est pas trompé. Dans son église, il y a tout. Le Seigneur a déjà pourvu. Il y a tout ce qu'il faut dans l'église. Le problème, c'est que nos yeux ne se portent pas sur les bonnes personnes. Amen. Mais le Seigneur a pourvu à tout. Il sait. C'est prêt. Alors merci Seigneur pour ceux qui sont un foie. Merci pour ceux qui sont la rate, parce que le foie et la rate, c'est pas beau. Puis il parlait des pieds. Ben oui, logiquement, j'ai appris. Ben oui, je faisais pas attention quand j'étais jeune. Mais les pieds, pourquoi il dit les membres les moins honorables, les askelon, les membres disgracieux? Ben parce que vous savez, moi je ne connais pas une seule personne, même si vous vous dites, ah mes pieds, non, je ne connais pas une seule personne qui ait des beaux pieds, non, ça n'existe pas, un pied c'est pas beau, je suis désolé. Par contre c'est tellement utile, donc en réalité, j'ai appris à prendre soin de mes pieds, parce que je vais les entourer de plus d'honneur et je vais faire attention d'être chaussé convenablement, parce que j'ai compris que j'avais un dos, que mon dos était sensible à la posture et à la position de mes pieds. Et quand mes pieds vont bien, mon dos va bien. Quand mon dos va bien, mon corps va bien. Et il avance. Donc il y a des membres pas trop honorables, askelon, disgracieux. J'ai appris à les entourer de plus d'honneur parce que j'en ai désespérément besoin. Je suis vraiment content. Il est super ce message. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Ensuite, et oui, bien évidemment, avant la conclusion, vous avez compris. Mais l'apôtre Paul, vous savez, il sait de quoi il parle aussi. Même de ses membres les plus petits. Souvenez-vous de cet épisode dans les Actes des Apôtres, acte 9. Vous relirez. L'apôtre Paul, il s'appelle encore Saul. Ça fait pas très longtemps qu'il s'est converti. Et très rapidement, il s'enracine dans la foi et sa vie spirituelle prend une dimension rapide, élevée, extraordinaire, et l'apôtre, enfin, qui est encore Saul de Tarse, mais il a déjà acquis une stature, une maturité très vite dans la foi, et il est capable tout de suite de confondre les Juifs et de démontrer que Jésus est le Christ par les Écritures. Et comme les Juifs, ça commence sérieusement à les échauffer, pardon, ce que Paul soit capable, lui, l'ancien pharisien, de leur démontrer qu'il avait tort et qu'ils avaient tort, il cherche déjà, acte 9, tout de suite, on cherche à se débarrasser de lui. Il est à Damas, et là, on lui en veut tellement qu'on a verrouillé les portes de la ville pour être sûr qu'il ne va pas s'en aller et qu'on va finir par le coincer. Mais ce jour-là, Paul sait, il n'y a pas eu besoin d'un grand enseignement. Oh, il n'y a pas eu une super prédication. n'y avait pas d'estrade, il n'y avait pas d'apôtre, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de miracle, rien. Ce jour-là, merci Seigneur, il y avait un frère, un chrétien dans la communauté de Damas. On ne sait même pas comment il s'appelle. Il avait une corbeille. Et heureusement que ce jour-là, pour sauver le grand prédicateur, il y avait un frère avec une corbeille qui a dit, mais vous savez frère, la porte est verrouillée, mais si vous voulez je vous prête ma corbeille, nous on va vous... Mais ben, il a quand même sauvé l'apôtre Paul, oui ou non? Eh oui. Même les plus petits, même ceux qui paraissent plus faibles. Donc c'est une vérité que Paul a apprise dès le début de son ministère. Et Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui n'en ont pas. Honneur, timé, la valeur, reconnaître la valeur de chaque membre dans le corps, parce qu'il y a des manques. Paul cherche réellement ici à amener donc cette prise de conscience, la valeur, la nécessité de chaque membre, afin que dans le corps, il n'y ait plus de division, qu'il n'y ait plus cet esprit de rivalité, ces sentiments d'infériorité, sentiments de supériorité, du mépris, des disputes, des préférences, du favoritisme. Des fois, on le fait juste par réflexe, mais tout ça, c'est motivé par la chair. C'est motivé par un ego personnel, c'est pas bon. Et il est là pour remettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Corinthe, je vous l'ai dit, c'est l'église du désordre sur beaucoup de points. Mais notamment, c'est l'église du désordre relationnel. Et l'apôtre Paul, ici, veut remettre de l'ordre dans leur comportement. Parce que tout ça, il leur dit au début, trois fois au début de l'épître, c'est charnel. Vous préférez un tel ou un tel, c'est parce que vous êtes charnel. Il y a des disputes au milieu de vous. C'est parce que vous êtes charnel. Vous vous êtes regardé comme ça ou comme ça. C'est parce que vous êtes charnel. Il veut ramener l'unité dans ce corps divisé qui est sérieusement en train de mourir. Lui aussi, mieux que quiconque, il sait pertinemment que toute maison divisée contre elle-même, je vous l'ai dit, ne pourra pas subsister. Verset 25, c'est un petit peu comme la conclusion, c'est son objectif, afin qu'il n'y ait plus de division dans le corps, parce que c'est la mort de l'Église. Mais que les membres maintenant aient soin, plus précisément que les membres s'inquiètent sincèrement les uns des autres, cette préoccupation pour chaque membre, quel qu'il soit, et encore une fois, je vous le dis, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est un état d'esprit, une attitude de cœur pour n'importe quel membre. Que les membres s'inquiètent les uns des autres. Mais ça, c'est un rempart contre les divisions. C'est ça la solution. Voilà, c'est ainsi. Je termine avec ce texte d'Éphésiens 4 qui me servira de conclusion et de parallèle. C'est comme ça que l'Église plaît à Jésus. C'est comme ça que je plais, que vous plaisez à Jésus, la tête du corps. C'est comme ça que l'Église va rester l'expression de sa vie, de son être. C'est comme ça que l'Église va être bénie, qu'elle va être en bénédiction. C'est comme ça que l'Église reste vivante, spirituellement, réellement vivante. Et puis qu'elle peut grandir. Le corps, bah, il est bien question du corps. Paul ne le développe pas autant dans les Éphésiens, mais la pensée est la même. Même s'il a passé plus de temps à en parler aux Corinthiens, Éphésiens 4, le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il s'édifie lui-même, il grandit lui-même dans l'amour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On se recueille ensemble 5 minutes. Merci beaucoup.